France Musique.
Bon week-end Nicolas Lafitte et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous et bienvenue dans Fabrication Maison, le magazine de la musique à la maison de la radio. Ce matin, nous ferons le portrait de quelqu'un que vous connaissez peut-être, notre confrère Clément Lebrun, qui officie sur France Musique, mais pas seulement. Puis dans son reportage, Hugo Brisset nous fera vivre les préparatifs complexes de la tournée aux États-Unis de l'Orchestre National de France. À 8h30, dans la chronique de la Maison Ronde, Marie Fauché évoquera le compositeur Erich Korngold. À 8h30, ce seront les archives de Jean-Yves Pat. À 8h45, votre souvenir musical dans Parlez-moi de musique. Et enfin, question de cœur, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sophie Janin à 8h50. On y va ?
France Musique.
Bonjour Clément Lebrun.
Bonjour Dominique.
Alors les auditeurs du samedi matin se souviendront peut-être des nombreuses chroniques que vous avez faites dans la matinale du samedi pendant plusieurs années. Puis maintenant vous officiez dans le cri du patchwork. C'est quoi ce nom, le cri du patchwork?
Pour moi ça a été une évidence en fait d'appeler cette émission comme ça. Je sais pas pourquoi. Enfin c'est surtout parce que j'ai deux passions depuis longtemps. C'est vraiment le cri en tant qu'objet musical, qu'objet sonore, qui est très utilisé depuis maintenant très longtemps. J'ai travaillé pendant très longtemps par exemple sur les cris de Paris du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Bien sûr.
Et puis par ailleurs, le patchwork, c'est parce que moi je suis né dans le collage. C'est-à-dire que toute mon enfance, j'ai fait du collage, puis j'écoutais énormément de musique en lien avec le collage, la juxtaposition de différentes musiques, et puis surtout plein de styles différents. Donc je me suis dit, le cri du patchwork, ça veut rien dire, et puis ça veut tout dire pour moi.
Alors justement, vous parlez d'enfance, on va replonger tout de suite dans votre enfance musicale.
The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show.
Thank you.
nostalgia for the old folks.
I'm advocating dark clothes.
If I'm not alone, how long have I been asleep?
C'est tout vous, ça, Clément Lebrun.
Ah oui, ah oui.
Ce Frank Zappa, Lumpy Gravy, finalement résume bien ce que vous avez découvert enfant, cette idée du collage.
Tout à fait. Passer d'une idée à une autre, une forme de zapping, en fait. Et puis surtout, sans hiérarchie entre les différents styles. C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose de grandiose avec un orchestre symphonique, on peut avoir de la parole, du poème sonore qui est dit dans un piano à la toute fin, un extrait qu'on vient d'écouter. Et puis, on passe d'une petite idée très bête à quelque chose de très bien écrit. Et c'est ça que j'aime bien, c'est la dentelle de ces musiques-là qui m'a proposé en fait des quantités de portes ouvertes pour aller ailleurs à chaque fois.
J'aime bien l'idée que vous évoquez de non-hiérarchie entre les musiques et puis aussi l'idée d'utiliser le son comme une forme de musique.
Ah oui, complètement. Oui. C'est-à-dire que c'est des musiciens comme Frank Zappa qu'on vient d'écouter ou d'autres musiciens qu'on va écouter après, c'est des gens qui m'ont ouvert la perspective que la musique, c'est pas uniquement des mélodies et des rythmes, c'est aussi du son avant tout. Et après, il suffit d'ouvrir les oreilles. Et donc toute mon enfance, ça a été ça, c'est d'apprivoiser ces sons pour les faire entrer dans mon langage, dans mon vocabulaire, et puis de pouvoir découvrir après chez chaque compositeur comment ils utilisent ces sons, les uns après les autres, ou tous ensemble, ou bien quand il n'y a pas de son du tout même, parce que ça fait partie maintenant de ma culture, le silence.
C'est certainement cette formation musicale qui vous a prédisposé à faire entrer dans votre existence une autre forme de musique. L'espace, le ciel vient de s'ouvrir, Clément Lebrun, avec cette musique d'Alexandra Grikola.
Oui, on touche ici à l'inouï. En tout cas, quand je l'ai découvert, cette musique-là, j'étais à la fac, à la Sorbonne, en musicologie. Et j'avais jamais entendu parler de la musique de la Renaissance avant d'arriver ici à Paris. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais dis donc, pourquoi on m'a jamais parlé de ça? Comment c'est possible d'écrire une musique qui flotte autant? On n'a pas du tout de pulsation presque, on sent que ce sont que des lignes qui se croisent et on n'a pas de hiérarchie entre ces voix, on est tout est au même niveau. Et pour moi c'était une ouverture complète et je me suis plongé dans ces musiques de la Renaissance à partir de ce moment-là et j'en suis pas ressorti.
Il faut dire que l'interprétation est magnifique, c'est celle du Huelgas Ensemble que dirige Paul Van Nevel. Vous-même Clément, vous avez monté un ensemble, l'ensemble Clémence Non Papa.
Ah, l'ensemble Non Papa même.
Non
c'était,
Papa.
C'était pour laisser un peu de doute sur ce que ça voulait dire Non Papa. Oui, c'est une grande histoire, ça a commencé en 2003. Pendant 10 ans, nous avons officié dans ces musiques de la Renaissance en créant des spectacles divers et variés. D'ailleurs, Édouard Fauré-Colfiti, producteur à France Musique aussi, faisait partie de cet ensemble. Et ensemble, on a créé des spectacles pour amener cette musique de la Renaissance à rencontrer un public contemporain. Et en fait, on est allé un peu partout et c'est là que j'ai commencé à travailler justement sur ces cris de Paris, les cris de marchands qui hantaient les rues de Paris au Moyen-Âge à la Renaissance, et avec lesquels j'ai fait un spectacle qui a duré pendant un certain temps, avec lequel on a beaucoup tourné.
Et Clément Lebrun, ces musiques anciennes que vous découvrez finalement résonnent assez facilement avec le répertoire contemporain dont vous êtes plus familier.
Oh oui, complètement. Ça a été une évidence. Et puis surtout, j'ai trouvé des compositeurs qui allaient dans ce sens-là. Bernd Alois Zimmermann, Anton Webern, des compositeurs qui travaillaient sur les deux domaines, c'est-à-dire la musique renaissance et la musique hyper contemporaine. Et c'est vrai que moi, ça a été mon truc de voir comment tout ça pouvait se lier. Et je reviens sur cette idée de non-hiérarchie entre les instruments. C'est-à-dire qu'on n'entend pas une mélodie, un accompagnement. Tout est lié, c'est toujours du contrepoint, comme on appelle ça. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de pouvoir voir comment les lignes peuvent se mêler. Que ce soit dans un discours comme ce qu'on vient d'écouter, qui sonne très bien à l'oreille et qui est assez joli, même quelque part. Ou bien une musique plus dérangeante, quelque chose qui va nous amener à se poser la question.
No.
Frottola, c'est une pièce d'Igor Balro, Jody Pouet à la voix, Emily Manzo au piano, il y a un trio à cordes, Calvin Viersma au violon, Daniel Farina à l'alto et Chris Gross au violoncelle, et puis il y a des carillons, ceux de Joey Bergen. Qu'est-ce que c'est que cette musique, Clément Lebrun?
Ah, c'est une musique que j'ai découverte grâce à l'émission qu'on faisait ensemble, c'est-à-dire à la matinale du samedi matin. C'est Igor Balro, compositeur, qui avait entendu une de mes chroniques sur le silence, parce que je me passionne par le silence actuellement. Et il m'avait envoyé un petit message en me disant « Mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur le silence. Veuillez écouter ma musique. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Une musique à fleur de peau, toujours dans l'intime, et très bien écrite, très bien ciselée. Vraiment quelque chose, une très belle facture. Et encore une fois, avec des taches de son, les unes à côté des autres, sans jamais avoir de direction. On a l'impression que ça flotte tout le temps. Et donc, je trouvais un peu cet entre-deux, entre les musiques anciennes, les musiques très modernes que j'aime. Et finalement, Igor Balro, je l'ai invité au Cri du Patchwork l'année dernière pour parler de ce silence-là. Et c'est une personne que j'adore humainement, mais aussi musicalement, qui a beaucoup à apporter. Et surtout ce label, Shushka, qui s'appelle comme ça. J'ai appris à le dire.
Vous qui pouvez le prononcer.
J'ai appris à le dire.
Oui.
Donc le Shushka, qui est un label génial pour pouvoir écouter des musiques vraiment très intimes, très modernes, mais qui ne sont pas dans ce choc, cette provocation que pouvait donner finalement la musique contemporaine à une époque. C'est pour ça que je parle plus ici de musique du silence, musique de l'effleurement.
Agricola, Balro, on n'est pas si loin. Clément Lebrun, c'est finalement ça que vous transmettez. Parce qu'en fait, je vous ai invité parce que vous êtes à France Musique, mais surtout aussi parce que vous avez une grosse activité en dehors de la radio, qui est une activité de transmission. Mmh. Vous travaillez avec l'ensemble intercontemporain, mais également avec l'Orchestre National de France, pour faire de ces concerts ou de ces séances qu'on appelle tout public. C'est-à-dire pour rapprocher un petit peu les répertoires des auditeurs.
Tout à fait, oui.
Et pour vous, il n'y a pas de rupture entre le travail que vous faites avec la musique contemporaine, celle que vous faites avec un répertoire plus classique?
Non, pas du tout. Pour moi, c'est même enjeu. C'est-à-dire, pour moi, c'est de créer la curiosité. Que la personne qui vient voir le concert, que ce soit sur du Tchaïkovski, que ce soit sur du Boulez, se pose des questions à chaque fois. Se crée une curiosité à lui. C'est-à-dire pour dire, comment je vais faire pour aller plus loin, pour écouter cette musique différemment. Et donc, que ce soit, donc, je vous dis sur du Boulez, parce qu'avec l'ensemble intercontemporain, on a régulièrement, justement, ce répertoire qu'on a appelé la musique contemporaine, mais aussi énormément de jeunes compositeurs qui ne sont pas créés ailleurs et qui me donnent un peu de challenge, c'est-à-dire des partitions qui n'ont jamais été jouées, que je n'ai jamais entendues. C'est comment je vais parler de cette musique-là au public pour les préparer à une écoute, ce que j'appelle une écoute élargie, une écoute épaissie, pour qu'ils puissent se dire, comme lorsqu'on goûte un bon vin, vous savez, la première fois, on se dit, c'est bon. Mais quand on a les outils, après, on sait pourquoi c'est bon. Et c'est ça que je cherche à faire, c'est faire que les auditeurs deviennent des bons œnologues de la musique.
C'est ce que vous allez faire avec l'Orchestre National de France les 12 et 15 mars prochains.
Oui.
En attendant, on retrouve un autre de vos choix. John Cage, la sonate 5 pour piano préparé, est interprétée par Cédric Péchia. Clément Lebrun, donc avec l'intercontemporain, vous avez innové un certain nombre d'ateliers. Alors, il y a déjà ces ateliers qui vont avoir lieu à la Philharmonie, qui s'appellent les Clés d'écoute. Le prochain, c'est le 9 février à 19h45. Qu'est-ce que vous faites? Justement, vous présentez un concert qui s'appelle Timbre en fusion.
C'est-à-dire qu'à partir d'une thématique, puisque souvent la programmation de la Philharmonie de Paris ou de l'ensemble intercontemporain sont des programmations thématiques avec différentes œuvres à l'intérieur, eh bien moi j'ai donné des clés d'écoute dans le cadre d'une demi-heure pour que les gens puissent avoir des petits points de détail qu'ils vont essayer de retrouver après dans les partitions, souvent complexes. Parce que lorsqu'on écoute pour la première fois une pièce de musique de création, souvent on est un peu perdu, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'informations. Et donc moi je donne juste quelques détails pour qu'ils puissent se sentir un peu à l'aise, un peu dans leurs chaussons, lorsqu'ils s'installent dans leur fauteuil.
Et puis comprendre que finalement ce qu'ils aiment ou ce qu'ils connaissent en musique peut parfaitement leur servir pour comprendre, ou en tout cas apprécier, cette musique qu'il découvre.
Tout à fait, c'est-à-dire que tous les outils sont bons pour pouvoir apprécier à sa manière. Moi, je ne suis pas là pour dire comment il faut aimer la musique. Je suis là pour dire aux gens, vous pouvez l'aimer à votre manière et surtout ne pas avoir honte de poser des questions. Parce que moi, je suis né comme ça. Je suis né en me posant des questions sur Frank Zappa. Je suis né en me posant des questions sur John Cage, qu'on vient d'écouter, à écouter ses sons étranges, à me dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et puis après, me demander, mais pourquoi est-ce qu'il fait du silence, ce John Cage? Évidemment, c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ma manière d'écouter la musique.
D'écouter de la musique et, accessoirement, d'en faire. Clément Lebrun, vous êtes l'un des interprètes de cette pièce étrange, ping-pong, vous l'avez intitulée, on comprend pourquoi.
Oui, c'est une pièce pour match de ping-pong, en effet.
Comment ça se passe alors?
C'est assez simple. Nous avons une partition, là l'ensemble que vous écoutez c'est l'Omédoc, l'Orchestre des Musiques Expérimentales du Doc, on va en parler juste après, mais voilà, on a une partition avec des graphiques dessus, c'est-à-dire on nous dit, vous allez jouer un souffle, une note précise, une note longue, vous allez crier, vous allez jouer avec un objet, mais en suivant le match de ping-pong qui se joue devant nous. Donc nous avons deux joueurs, nous on choisit un joueur. Par exemple là je suis en train de suivre le joueur de droite. Et en fonction de son score, j'avance dans ma partition. Donc si on tombe sur des joueurs nuls, ça peut durer des heures. Ou bien si on tombe sur des très bons joueurs, ça peut jouer très très rapidement. C'est une partition qu'on dit ouverte, c'est-à-dire une partition indéterminée qui évolue en fonction de l'interprétation.
Alors avec cet ensemble Omédoc, Clément Lebrun, vous allez participer à la semaine du son, cette semaine qui se déroule en ce moment et qui, je crois, a pris de l'ampleur puisque maintenant, non seulement elle se déroule à Paris, mais dans nombreuses villes de province. Vous pourrez trouver des informations sur cette semaine du son en suivant le lien qu'on va marquer sur la page de l'émission.
La semaine du son, pour nous, c'est une occasion pour de montrer que nous posons la question du son. On en parlait au tout début de cette interview. C'est-à-dire que le son est au centre de la question du musicien aujourd'hui. C'est plus la note, c'est plus la mélodie, le rythme. C'est comment on fait du son. Et avec le Médoc, donc nous sommes invités à Soissons, à la Cité de la Musique et de la Danse, pour une après-midi entière où on va jouer avec le public pour leur poser la question du son. Donc écouter des sons très courts. Par exemple, on va jouer du Steve Reich avec Clapping Music ou bien Music for Piece of Wood, qui sont juste des impacts. Ou bien des musiques très très longues, puisque nous avons des compositeurs comme James Tenney qui écrit des œuvres qui durent 30 minutes sur un seul son, pour nous faire comprendre comment la question du son est au centre de notre écoute aujourd'hui.
Et puis Clément Lebrun, on peut vous retrouver sur France Musique.
Exactement, ouais. Tous les dimanches de 21h30 à 22h30, c'est le cri du patchwork où j'essaie de mettre un peu tout ce que je suis et tout ce que je rencontre, surtout.
Alors à dimanche,
à
merci.
Dimanche, merci.
Eh bien, en voilà des archives. C'est l'une des formations, l'orchestre lyrique de l'ORTF, qui sera fusionné plus tard au sein de l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par le maître du genre, Adolphe Sibert, que nous entendions dans ce moulin de la forêt noire de Richard Eilenberg, enregistré ici même au studio 104. Bonjour Hugo Bresset.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors l'Orchestre National de France a quitté le cocon de la Maison de la Radio et a pris son envol la semaine dernière, direction l'Amérique du Nord, pour une tournée de 6 concerts du 24 au 31 janvier. Et parmi les destinations, Boston, Washington, en passant par le Carnegie Hall de New York. Hugo, vous avez suivi la préparation un peu compliquée de cette tournée.
Oui, en tout cas, les derniers préparatifs, j'étais aux côtés de l'orchestre quelques jours avant son départ. J'ai pu voir l'excitation des musiciens, l'agitation des régisseurs. Et lors du concert de lancement de tournée qui a eu lieu dans l'auditorium de la Maison de la Radio le 20 janvier dernier, je me suis glissé dans les coulisses et j'y ai croisé Ingrid Lenormand, altiste à l'Orchestre National de France depuis 21 ans, un peu perdue.
Oui, je cherche mon passeport parce que je suis allée à l'ambassade vendredi et donc j'attends mon passeport pour savoir si je peux partir.
D'accord, vous ne savez pas encore aujourd'hui si...
Non, mais si, je crois que tous les visas ont été attribués. Il faut juste que je récupère le passeport. Je suis ravie de faire une tournée États-Unis et Canada. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. C'est vrai que depuis quelques années, on fait moins de tournées. Donc c'est bien pour l'orchestre, on se retrouve toujours des bons moments.
Oui, vous avez déjà participé à des tournées en Amérique du Nord avec l'Orchestre National de France.
Oui, avec Maestro Kurt Mazur, avec Charles Dutoit. Bah, le premier souvenir marquant, c'est l'arrivée au Carnegie Hall, bien sûr. On va y rejouer la semaine prochaine. C'est vrai que ça permet de se voir, parce que sinon, quand on est à Paris, tout le monde a retrouvé sa famille, aller donner des cours, des concerts. Donc là, on vit ensemble quasiment 24 heures sur 24. Donc c'est agréable, on a le temps de prendre le petit déjeuner ensemble, de passer des moments, voilà, d'aller au musée quelques heures. On n'est pas toujours tous ensemble, mais des petits groupes, et on peut aller d'un groupe à un autre. Oui, c'est des moments agréables.
David Rivière, violoniste, Orchestre National. On se prépare, on se projette déjà. avec l'Orchestre National aux États-Unis. Ça doit être peut-être la cinquième tournée. C'est toujours quelque chose de particulièrement intense. On sait que le public est très averti. On sait qu'on va inévitablement être comparé aux grands orchestres américains, que les salles dans lesquelles on va jouer sont souvent magnifiques, voire sublimes. Comme Carnegie Hall ou le Boston Symphony Hall, où on va se retrouver justement dans quelques jours. Donc c'est toujours un challenge, un plaisir, une joie, un poil d'appréhension, toujours au premier concert, bien sûr, pour espérer que le concert soit au plus haut niveau possible. C'est un programme qui montre beaucoup de facettes de l'orchestre, avec Prélude à la Prémédina Faune de Debussy, bon, qui est un grand classique de l'Orchestre National aux États-Unis. Déjà en 1948 avec Munch, l'orchestre défendait les couleurs françaises, de la musique française.
C'était la première tournée.
C'était la première tournée, oui. La première tournée, en 1948 d'ailleurs, c'était le premier orchestre européen qui venait aux États-Unis. Avant même les grands orchestres londoniens ou d'autres pays. Bon, évidemment, l'Europe se relevait de la guerre, mais ça reste une tournée à laquelle on pense et on se compare toujours. Enfin, c'est une tournée référence pour nous. Enfin, on va jouer du Debussy, Shostakovich, donc avec un concerto pour violon, enfin le premier concerto pour violon avec Julian Rachlin. Bien que ce soit un concerto pour violon, l'orchestre a quand même une part importante à jouer, avec une très grande virtuosité dans le scherzo. Et puis la cinquième de Tchaïkovski, donc la musique russe avec laquelle l'orchestre national a quand même une affinité assez importante. De Tchaïkovski à Stravinsky, ça fait vraiment partie du répertoire, du grand répertoire que l'orchestre connaît très bien.
Vous parliez de la première tournée en 1948. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Orchestre National de France joue encore un rôle d'ambassadeur, justement, de la musique, de la culture française à l'étranger?
Je le pense, je l'espère. En tout cas, ma femme va m'accompagner sur une partie de la tournée. Elle me rejoint à New York et j'ai pris des places il y a 2 mois à Carnegie Hall et la salle est pratiquement complète. Je crois que c'est un signe très important pour l'orchestre de savoir que les Américains, eh bien, on a toujours envie de savoir ce que les Français ont à proposer.
Au programme de cette tournée, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, la cinquième symphonie de Tchaïkovski et 2 concertos en alternance, le concerto pour piano numéro 23 de Mozart et le concerto pour violon en la mineur de Shostakovich par Julian Rachlin, un programme atypique dirigé par Daniele Gatti. Ce voyage en Amérique du Nord et sa dernière tournée avec l'Orchestre National de France, alors forcément de l'émotion. Présenter ce programme que vous avez préparé pour cette tournée.
Oui, c'est des programmes qu'on a déjà joué plusieurs fois ensemble, bah, bien sûr dans les États-Unis. On commence avec les Préludes à l'après-midi d'un fond de Debussy, le premier violon concert par Shostakovich, joué par Julian Rachlin. Deuxième partie, la cinquième symphonie de Tchaïkovski. Le problème, c'est que l'orchestre avec moi a joué beaucoup de répertoires vraiment très larges. Et la dernière fois, on a joué plusieurs morceaux de l'école française. Cette fois, on a pensé de porter une des plus importantes compositions du XXe siècle, de l'impressionnisme français, le plus de l'après-midi d'un fond de Debussy. C'était un morceau très très fameux, mais j'espère, et Je suis sûr que le public américain il va attendre qu'est-ce que c'est une lecture donnée par une musique comme ça dans les plus proches musiciens qui sont les musiciens français. Dans le cadre de la musique russe, le concert de Shostakovich est vraiment une des compositions plus profondes, je crois, aussi dans le cadre de concert pour violon. Et c'est une des concerts que j'adore en plus. Et la possibilité de travailler avec un ami comme Julien Rachlin, il rend tout nous vraiment heureux de ça. Tout ça. La cinquième de Tchaïkovski n'a pas besoin d'être présentée, bien sûr. Mais on a pensé de porter cette symphonie parce que on a décidé la programmation de cette tour il y a 2 années et demie, quasiment 3 années. Et à l'époque, j'ai joué avec l'Orchestre National de France toute la série de les 6 symphonies de Tchaïkovski. Alors, j'ai trouvé l'orchestre particulièrement adapté à ce répertoire, particulièrement pour l'orchestre, c'était plutôt naturel jouer un compositeur comme ça. Et je pensais que c'était un bon choix pour nous aller à New York et dans les villes américaines avec un programme comme ça. Le public, c'est difficile de, comme on peut dire, c'est un public chaleureux, c'est un public qui a une sympathie particulière pour les musiciens qui se présent sur la scène. Bien sûr, il y a une attitude très positive habituellement, mais aussi c'est un public très rigoureux et surtout le public de New York, un public qui est habitué jour après jour à avoir une palette de le plus haut niveau possible, parce que pas seulement l'orchestre de la New York Philharmonic qui joue régulièrement dans la ville, pas seulement le Metropolitan qui est un des plus grands théâtres du monde, mais tous les orchestres européens et visite la ville de New York régulièrement pour tourner. Alors la compétition à l'intérieur, c'est une compétition vraiment positive, mais bien sûr dans la salle de la Carnegie Hall, tous les grands orchestres du monde ont laissé une trace très importante de leur passage, et je suis fier que l'Orchestre National rentre dans ce cadre de grands orchestres internationaux invités dans une ville comme ça. Après, la vie en tournée, c'est une vie particulière parce qu'on n'a pas de temps pour faire du tourisme. On joue et le matin après on a l'avion, on va dans une autre ville, on fait une petite répétition pour prendre confiance de la nouvelle salle de concert, on joue et allez, les jours après encore, une fois. C'est une vie fascinante, mais aussi c'est une vie plutôt difficile.
Intense.
Ah oui, beaucoup.
C'était le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, interprété par l'Orchestre National de France dans l'auditorium de la Maison de la Radio le 20 janvier dernier pour le concert de lancement de tournée. Juste avant de partir pour l'Amérique du Nord, l'orchestre a en effet testé son programme devant un public français. J'ai croisé quelques mélomanes à la sortie de ce concert en train de débattre de la performance de l'orchestre. Puis je suis retourné quelques minutes après dans les coulisses de ce concert pour aller voir les régisseurs en pleine activité. Ils rangeaient les instruments avant le départ pour New York.
Julian.
Oui, alors on a trouvé qu'il voulait montrer un peu sa virtuosité. Enfin, c'était
Moi, je ne regrette pas. Quand moi, j'ai bien aimé. Il fait un virtuose comme ça, mais
c'était très bien interprété. Moi, j'ai bien aimé.
Il jouait remarquablement.
Et puis,
vous parliez du Debussy.
Ah oui, j'ai particulièrement apprécié l'interprétation de ce prélude de l'après-midi d'un faune. Ah oui, j'ai adoré. C'était épatant.
La performance globale
C'est un très bon concert, oui. Ils sont très formidables. D'abord, Daniele Gatti, il est merveilleux.
Et vous pensez que ça va plaire aux États-Unis, ce programme?
Ah oui, je suis sûr. Vous croyez pas? Pourquoi pas?
Bonjour, je m'appelle Valérie Robert et je suis donc régisseur principal adjointe à l'Orchestre National. Voilà, j'ai passé également 12 ans en tant que régisseur principal adjointe aussi à l'Orchestre Philharmonique.
Je vous ai vu vous balader avec des passeports. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler avant le départ ?
Alors, les visas, oui, c'était un petit peu compliqué parce que les procédures maintenant sont de plus en plus compliquées, de plus en plus informatisées. On a finalement réussi à avoir tous les visas, donc c'est principal.
Il y a aussi des instruments qu'il faut amener sur place. Ouais. Comment ça se passe ?
Alors en fait, les instruments sont acheminés par cargo en amont des musiciens, puisqu'évidemment ça met du temps parce qu'il y a des passages en douane. La nouveauté maintenant, c'est qu'il y a aussi des inspections au niveau des instruments en raison d'une réglementation qui a été un petit peu renforcée et qui consiste à ne pas exporter aux États-Unis des matières issues d'espèces protégées, notamment l'ivoire. Et l'ivoire, il faut savoir qu'on en trouve sur toutes les têtes d'archets notamment. Donc voilà, il y a eu un gros travail de fait pour ça également, qui consistait en fait à devoir répertorier tous les instruments qui allaient partir, les instruments à cordes, les archets, et à faire établir des certificats par des luthiers, de telle façon à ce qu'on puisse définir si oui ou non ces instruments, tout d'abord, avaient des espèces protégées, dans un deuxième temps, si ces instruments pouvaient bénéficier d'un certificat qui autorise en fait l'entrée et la sortie du territoire américain à ces instruments. Ça générait pas mal de travail, voilà, avec la collaboration active et sympathique, je dois dire, de nombreux luthiers. Puisqu'en fait, à part l'ensemble intercontemporain qui a fait une tournée en novembre aux États-Unis, en fait, on est un peu les premiers à essuyer les plâtres en fait, avec cette réglementation. Donc il a fallu piocher un petit peu. J'ai appelé de nombreux orchestres européens qui, eux, avaient été confrontés au problème ces dernières saisons. J'ai entendu un certain nombre d'histoires plus ou moins rocambolesques, plus ou moins vraies, et puis bon, des vraies, notamment aussi de saisie d'instruments en douane, etc. On espère qu'on n'aura pas de soucis sur la tournée.
Moi, je suis Margot François et je travaille au parc instrumental, au plateau avec l'ONF. Là, je déplace une contrebasse. Ça a l'air hyper impressionnant, alors j'ai pas envie de dire que c'est pas lourd et parce que j'ai la classe avec une contrebasse. Mais non, en fait, ça a l'air gros et lourd, mais c'est très léger. Là, je la mets en fly parce que cette nuit, il y a toute une équipe de techniciens et de régisseurs qui partent à l'aéroport pour mettre tous les fly avec tous les instruments dans un gros avion. Vous voyez, il y a des noms sur chaque fly, tout est très très encadré, il ne faut pas se tromper.
Vous faites ça juste après le concert ?
Oui, directement après le concert, parce qu'en fait, donc ça, là, ça va dans un gros camion, ça part à l'aéroport, ensuite toute l'équipe va avec la douane, vérifier que bah, les noms correspondent bien à ce qu'il y a dans les fly, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps. Ils vont finir très tard cette nuit, et l'avion part direction New York dans la nuit, et il y a deux régisseurs qui partent juste après avec un autre avion pour récupérer le matériel à New York.
Alors je vous rassure, le voyage s'est bien passé, les instruments bien arrivés. Cela fait 8 jours que l'Orchestre National de France est en tournée en Amérique du Nord. Et ce soir, il se produit à Greenville, dans le comté de Nassau. Dernier concert demain au JFK Center of Performing Arts de Washington. Puis l'Orchestre National de France prendra son envol pour regagner ses pénates. Arrivée prévue mardi matin à Paris. Et sachez que le concert du lancement de tournée a été enregistré dans l'auditorium et diffusé jeudi. Il est disponible à la réécoute sur francemusique.fr.
Merci Hugo Brisset. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors le week-end dédié au compositeur Erich Korngold a commencé hier à la Maison de la Radio avec le récital de Christian Himmler. Ce soir, à l'Auditorium, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck donneront l'opéra La Ville Morte, avec notamment le ténor Klaus Florian Vogt et la soprano Camilla Nylund. Alors Korngold est assez méconnu aujourd'hui, alors que ce fut un compositeur très admiré de son temps.
Oui, alors il y a deux raisons pour lesquelles Korngold suscita en effet beaucoup de fascination. La première, parce qu'il fut un véritable enfant prodige, admiré par Mahler, Zemlinsky, Puccini, Sibelius. Et puis la deuxième raison, qui est venue bien plus tard dans sa vie, c'est qu'il a été en quelque sorte l'inventeur de la musique des films hollywoodiens.
En effet, deux vies en une.
Oui, en fait, le père de Korngold était le critique musical de Vienne de l'époque. Et lorsque son fils Erich commence à montrer une certaine aptitude, un certain talent pour la composition, il l'envoie voir Mahler. Korngold a 9 ans. Le père raconte qu'à l'écoute de sa musique, je cite, « Mahler se mit à arpenter la pièce de long en large avec le rythme boiteux qu'il adoptait lorsqu'il était agité. » Et il répéta plusieurs fois « Un génie ! Un génie !» Alors, Korngold a 11 ans lorsqu'il compose ce ballet intitulé Der Schneemann, le bonhomme de neige. Il est donné à la cour de Vienne et tout le monde s'émerveille, évidemment. J'ai cité Mahler, Richard Strauss aussi témoigne. La première réaction au sujet de ses œuvres composées par un enfant est le choc, la sidération. L'assurance de son style, la maîtrise de la forme, le contenu expressif, l'audace harmonique sont clairement stupéfiants. Et puis, ce sont les grands interprètes qui vont colporter la musique de Korngold à travers le monde. Bruno Walter, Arthur Nikisch, Engelbert Humperdinck et encore Arthur Schnabel. Schnabel qui, lui, s'était amouraché de la deuxième sonate pour piano qu'il jouait beaucoup.
Geoffrey Tozer au piano interprétait cet extrait du Largo con Dolore de la deuxième sonate pour piano d'Erich Korngold.
Alors on avance un peu, la Korngold a 13 ans quand il compose cette deuxième sonate. On l'entend, ça n'est pas la musique d'un enfant, ça semble être la musique d'un compositeur très mature. Toutes les œuvres qui suivent sont tout aussi riches et souvent magnifiques. Le sextuor, les deux premiers quatuors, les pièces pour piano et puis bien sûr ses opéras, et notamment le troisième opéra, La Ville Morte, qu'il écrit à 20 ans et que vous entendrez, vous l'avez dit Dominique, ce soir à l'auditorium de la Maison de la Radio.
Et en direct sur France Musique.
Et il faut absolument y venir, c'est non seulement un chef-d'œuvre, mais en plus c'est assez rarement donné. Une anecdote d'ailleurs, si vous aimez Sueur froide d'Hitchcock, vous ne pourrez pas être insensible à La Ville Morte de Korngold, puisqu'ils racontent tous deux la même histoire, ou presque, celle du best-seller de George Rodenbach, Bruges la Morte.
Et alors, est-ce que Korngold a composé pour le cinéma d'Alfred Hitchcock ?
Pour le cinéma d'Alfred Hitchcock, non, mais il a arrangé certaines musiques de Johann Strauss pour son film de 1934, Le Chant du Danube. Et ici, on entend la musique du film de Michael Curtiz, The Adventures of Robin Hood. Alors en fait, Korngold a traversé l'Atlantique en 1934, une première fois appelé par le réalisateur Max Reinhardt. Et puis, comme le régime nazi était toujours au pouvoir en Allemagne, Korngold a décidé de rester à Hollywood.
Il a composé plus de 20 musiques de films, il a remporté 2 Oscars pour ses musiques.
Oui, on peut dire qu'à Hollywood, Korngold s'est vite intégré, il a vite su répondre aux attentes du cinéma. Et même, c'est lui qui a inventé les règles de la composition pour le cinéma hollywoodien, avec d'abord cette patte très expressive, et puis l'identification de chaque personnage à un motif mélodique, à un caractère musical. Puis donc ce soir, La Ville Morte, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et que vous entendrez sur France Musique dans la soirée lyrique de Judith Chen. On en écoute un extrait, Mon désir, mon obsession, interprété ici par Bo Scovus.
Oh,
Et c'est le baryton Boscovus qui chantait cet extrait de l'opéra La Ville Morte d'Erich Kongold, accompagné par l'English National Opera Orchestra que dirigeait James Conlon. Une ville morte que l'on pourra donc écouter ce soir en direct sur France Musique depuis l'auditorium de la Maison de la Radio, en version de concert évidemment.
Et puis demain à 16h, le week-end Korngold se poursuit avec un concert de leader et de musique de chambre avec la chanteuse Camilla Nylund et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique. Et à 18h, un récital intitulé « De Vienne à Hollywood » avec notamment des leaders et mélodies de Kurt Weill, Misha Spolianski et Erich Korngold avec la chanteuse Isabelle Dorfler et le pianiste Jeff Cohen.
Merci Marie Fauché. Agenda. Lundi 1er février, venez assister à l'enregistrement de l'émission Couleurs du Monde, avec toute une ribambelle d'artistes, Joey Pilgrim et ses Ligerians pour un programme de reggae, Christine Saleb et Seb Martel, le joueur de flûte des deux guimbards de chinois Wang Li et l'accordéoniste Fixie, auquel se joint le beatboxer Baba Marcus. C'est au Studio 105 à 20h. La 26e édition du Festival Présence, Festival de la musique contemporaine, commence vendredi 5 février à la Maison de la Radio à l'Auditorium avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise qui célèbrent la musique italienne d'aujourd'hui, Oggi Italia. C'est à 20h avec un hommage à Henri Dutilleux, une création mondiale de Thierry Pécou et des œuvres de Francesconi et Romitelli. Enfin, France Musique est partenaire du Salon Musicora à Paris cette année. Et je vous signale donc une série de concerts participatifs. Le premier autour de la guitare avec Jean-Félix Lalanne. Le second avec la clarinette de Michel Letiec. Le troisième, la voix avec Marianne James. Si vous vous y inscrivez, vous recevrez une invitation gratuite pour Musicora. Tous les renseignements à la page de Fabrication Maison sur le site de France Musique, francemusique.fr.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, une fois de plus, les archives que nous apportez feront écho à la chronique que vient de nous donner Marie Fauché.
À croire que nous nous sommes concertés.
Je me demande.
Grâce à vous, sans doute d'ailleurs.
Oui, alors vous, dans votre cas, c'est un petit peu différent. Vous partez quasiment des origines.
Je pars des origines, puisque vous le savez, donc l'ouvrage majeur de Korngold, La Ville Morte, dit Totenstadt, a été créé en 1920, simultanément à Hambourg et à Cologne. Et dans la distribution d'Hambourg, il y avait Maria Tseritsa. Et Maria Tseritsa, qui a repris ensuite aux États-Unis La Ville Morte, a été sollicitée par les studios d'enregistrement pour fixer dans la cire le fameux air de la chanson de Mariette, Der Lautenlied, Der Marietta. Et c'est évidemment un document pris sur le direct, puisqu'on a un témoignage de la création presque en instantané. Alors je vous propose donc d'entendre cet enregistrement qui date de 1922, sous la direction non pas du compositeur, ni de celui qui a dirigé l'orchestre à Hambourg, mais de Joseph Pasternak, qui était le maître des studios.
Oh,
Alors je recommande aux auditeurs d'aller voir sur la page de l'émission sur le site de France Musique une très belle photo que vous nous avez envoyée, Jean-Yves Pat, qui représente justement cette Maria Gerizza, cette soprano.
Dans le rôle.
Dans le rôle, une vraie splendeur.
Hein. Ah oui, ça c'est moins compliqué.
Donc l'orchestre était sous la direction d'un certain Pasternak, et c'était donc un extrait, le grand air de Die Tote Stadt, la ville morte de Korngold.
Korngold ensuite a fui la poussée nazie. Il est parti aux États-Unis, ainsi que Maria Gerizza d'ailleurs. Et là, il abandonnera la composition d'opéra pour se consacrer au cinéma. C'est une seconde carrière. Mm-hmm. Mais dans son pays d'origine, et même dans la vieille Europe, il y a deux chefs particulièrement qui sont admiratif et du talent de chef d'orchestre et du talent de compositeur de Korngold. C'est Mengelberg, qui pourtant, lui, sera interdit à la fin de la guerre pour avoir été vraiment trop mêlé aux activités nazies. Et bien entendu, Richard Strauss.
Pour les mêmes raisons.
Un petit peu pour les mêmes raisons aussi. Bon, alors, je vous propose de les retrouver dirigeant leurs orchestres favoris, c'est-à-dire le Concertgebouw d'Amsterdam pour Mengelberg et l'Opéra d'État de Berlin pour Richard Strauss. L'un dans l'ouverture de Coriolan de Beethoven, et l'autre dans la première partie de Till Eulenspiegel lustige Streiche, qu'il dirige lui-même.
Magnifique version de l'orchestre du Concertgebouw, dirigé par Mengelberg. C'est un disque Columbia, Amsterdam, 1931.
1931. Vous allez écouter 2 ans plus tôt la version de Richard Strauss, donc un des grands admirateurs aussi de Korngold, et vous verrez combien l'orchestre sonne différemment. Et ce n'est pas seulement dû à la prise de son. Un petit peu hors micro, on trouvait qu'il y avait une patte terriblement martiale dans Mengelberg. Mm-hmm. Et bien là, au contraire, il y a quelque chose de beaucoup plus polissé et mondain. Il faut dire que la pièce aussi...
Oui, c'est pas le même sujet.
C'est pas le même sujet.
Entre Coriolan et Till Eulenspiegel.
Il y a un peu une marche.
Thank you.
Un extrait donc de Till Eulenspiegel de Richard Strauss, l'orchestre d'État de Berlin et sous la direction du compositeur. Et c'est donc un disque Jean-Yves Pat, Polydor, un Berlin disque... 1929.
Voilà, un très beau disque qui a connu un... toutes sortes de pressages dans le monde entier. C'est assez intéressant, cette œuvre a été extrêmement populaire.
Donc Mengelberg et Strauss, tous deux amoureux, amateurs...
De l'art de Korngold.
De l'art de Korngold.
Korngold est parti.
Merci Jean-Yves Pat, vous partez vous
prochaine.
Aussi.
À la semaine prochaine.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Jean-Claude Blancard. Ma compagne et moi-même avons découvert l'émission Le Mardi Idéal animée par Ariel Buteau par hasard, en explorant nos ondes radio préférées. C'était il y a une dizaine d'années. Dès lors, nous l'avons écoutée religieusement tous les mardis dans notre voiture, quand nous nous rendions à notre cours de tango, en maudissant l'horaire de ce fichu cours qui nous empêchait d'entendre l'émission jusqu'au bout. Nous avons tout de suite été conquis par cet assemblage improbable, et pourtant si cohérent, de musique classique, lyrique, de musiques exotiques et de chansons. Son animatrice était passionnée, à l'écoute de ses invités, les mettant en valeur et en confiance, avec une vraie voix de radio, comme il en reste si peu aujourd'hui. Nous nous demandons où et comment elle pouvait dénicher tant de talents. Nous avons vite appris que l'enregistrement de l'émission était public. Et l'année suivante, fini le tango. Nous avons commencé, malgré la distance, puisque nous habitons la région de Melun, à fréquenter le studio Charles Trenet de la Maison de la Radio à Paris, où l'émission était enregistrée le mardi soir. Nous n'avons jamais été déçus, et après notre journée de travail, si dure qu'elle ait été, l'évasion était garantie en compagnie d'Ariel, vers des paysages musicaux toujours renouvelés et fabuleux. Nous gardons de ces moments quelques souvenirs impérissables. Tiens par exemple, ce mardi idéal dans lequel se sont rencontrés le Tram des Balkans avec sa musique d'Europe de l'Est et Violaine Cochard avec son clavecin baroque. De cette rencontre est née une expérience extraordinaire de fusion de CD musique que Violaine et le Tram ont concrétisé par un disque et une série de concerts formidables. Et cet autre mardi, en hommage à Brigitte Ingerer qui venait de nous quitter si brutalement, il y avait tous ses amis, ce fut un moment d'émotion d'une intensité absolue. De la musique jouée avec le cœur et les tripes, ce jour-là plus que jamais. Et tant d'autres, on ne peut pas tous les citer. Puis le mardi idéal est devenu dimanche, après tout, qu'importe. Nous n'allions pas arrêter de le fréquenter pour si peu, il n'avait rien perdu de ses qualités. Et puis, il y a eu ce 30 juin 2015, quand Ariel nous a annoncé que c'était la dernière. L'émission était de circonstance, et Juliette nous a fait bien rire, malgré l'émotion, avec sa bonne paire de claques dans la gueule empruntée à ce cher Boris Vian. À la fin de l'émission, Ariel a salué son public et ses techniciens, comme si de rien n'était, peut-être simplement un peu plus longuement que d'habitude. Mais dans la salle, tout le monde était debout pour l'applaudir. 5 minutes, montre en main. Et de l'autre côté de la vitre du studio, il y avait beaucoup de monde, peut-être des amis venus l'embrasser. Ça reniflait et ça larmoyait un peu dans le public. Les pollens, sans doute. Merci de tout cœur, Ariel, pour tous ces moments de bonheur. Et bonne chance dans votre nouvelle vie après France Musique, qu'elle soit encore plus passionnante. Thank you. Pour illustrer le souvenir musical de Jean-Claude Blancard et de son épouse, nous écoutions un extrait du disque que Brigitte Engerer consacrait au piano à quatre mains de Serge Rachmaninoff avec Oleg Meisenberg, puis du dernier disque de la claveciniste Violaine Cochard et du pianiste Édouard Ferlet qui se sont rencontrés sur le plateau d'Ariel Buteau. À ce propos, et pour ceux que cela intéresse, sachez qu'Ariel Buteau, dans son salon idéal, fêtera la Saint-Valentin. C'est bien son genre. Le 14 février à 16h, au Sunside à Paris, avec une ribambelle d'amis musiciens. Bonheur assuré pour la fête des amoureux. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Alors nous sommes à l'aube de l'ouverture du festival Présence qui va donc se dérouler ici dans nos murs pendant une quinzaine de jours. C'est peut-être l'occasion d'aborder avec vous puisque avec la maîtrise vous allez ouvrir ce festival Présence.
Et avec le cœur.
Et avec le cœur. Donc c'est peut-être l'occasion d'aborder avec vous peut-être certaines techniques concernant le style de la musique contemporaine, si tant faire se peut qu'on puisse parler d'un style, puisque la musique contemporaine, un petit peu comme toutes les autres musiques d'ailleurs, est extrêmement multiple.
Elle est extrêmement multiple, et puis on a, voilà, on peut pas vraiment parler de un style, mais là où on voit quand même la différence, c'est que quand on arrive à une musique qui va plus loin que la musique tonale, même l'harmonie chromatique, quand on part vraiment dans quelque chose de atonal, des tonalités nouvelles, que découvrent les compositeurs au long du siècle dernier et encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toute une boîte de munitions nouvelles, c'est-à-dire des techniques vocales nouvelles. On entend du moitié chanté, moitié parlé. Il y a des effets spéciaux au niveau des souffles. Il y a des effets de réservoirs avec des voix qui improvisent à l'intérieur. On est dans des écritures quand même qui posent des défis aux chanteurs parce qu'on doit en quelque sorte réinventer ce que c'est de chanter. On est dans quelque chose qui change à tout moment, même s'il y a quelques codes, on va dire, internationaux qu'on peut comprendre et qui se propagent. Chaque compositeur a quand même aussi sa petite boîte à outils pour montrer ses signes, etc. Donc il faut vraiment se plonger à l'intérieur. Quand on a de la chance d'être en communication directe avec le compositeur, on est très enrichi par cela, mais c'est pas toujours le cas. Là, par exemple, aux présences avec la maîtrise, on aborde une partition de Fausto Romitelli, qui n'est plus parmi nous, il est mort il y a quelque temps déjà. Et on doit voilà, essayer de deviner qu'est-ce qu'il voulait avec certaines flèches qui sont marquées, des notes avec des traits.
Les partitions sont parfois difficiles à comprendre. Oui,
oui, c'est un peu comme une carte astronomique qu'on découvre et c'est une préparation passionnante parce qu'il faut être un petit peu détective dans cela, essayer de reconnaître le système mais par rapport à ce qui est écrit. Et cela est vraiment intéressant et je pense que les chanteurs aiment beaucoup aborder cela.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, Sophie Jeanne. Je pense que c'est assez libérateur aussi, cette musique d'aujourd'hui. Elle oblige, un peu comme pour les instrumentistes, à aller un peu au-delà de son instrument.
Oui, on apprend des façons nouvelles à aborder son instrument, à s'en servir. Et dans le chant, on a en plus tellement de chance parce qu'on a ces textes qui sont choisis avec, pour ce concert d'ouverture, le chœur de Radio France va interpréter donc une pièce de Luca Francesconi qui est hommage à Nelson Mandela. Donc ça parle à la fois en anglais, mais également en Xhosa ou en Xhosa, comme on dit en très mal, mais j'essaie d'apprendre parce que, vous savez, il faut essayer de, quand même de rendre crédible notre diction et notre prononciation. Et donc, il y a, voilà, un travail encore linguistique à faire et cette partition, elle est sublime, mais remplie d'effets sonores et effets spéciaux par rapport au souffle, par rapport au placement des voyelles qui sont pas vraiment dans la voix, mais légèrement à l'extérieur, on va dire comme un chuchotement, et en même temps il faut des hauteurs de son précis. Voilà, c'est un travail très minutieux qu'il faut fournir, mais que je trouve donne un résultat époustouflant.
On a hâte de vous entendre. Merci Sophie.
Merci.
Pour illustrer la chronique de Sophie Janin, nous écoutions La berceuse d'Arnaud Schreier, créée lors du festival Présence 2014 par la maîtrise de Radio France. Et à propos de Présence, il y a des places à gagner pour l'un des concerts du festival, qui débute vendredi prochain. Mais c'est samedi 6 février que vous êtes invité au Studio 104 pour un programme de musique vocale avec l'ensemble Les Cris de Paris et l'altiste Christophe Desjardins. Au programme, Stropa, Lanza, Philly Day et Francesconi. Les places à gagner, c'est sur le site de Fabrication Maison, sur francemusique.fr.
C'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, Philippe Petit, Alexandre Billard, Benoît Latil
et Loïs, notre stagiaire.